Bien, ben je vous propose, puisque vous êtes venu à l'heure et même un peu avant, que nous commencions sans tarder cette rencontre de ce qui s'appelle les rendez-vous de crise, c'est-à-dire le forum, la rencontre, la discussion que l'École des hautes études, et plus spécialement ses cercles de formation, et j'en remercie les animatrices, l'animatrice Marina Zuccone, ainsi que Joël Busutil de la communication de l'École des hautes études. Donc ces rencontres que nous vous proposons pour discuter un peu à chaud. Donc ça a été organisé en se laissant le temps de l'organisation précisément, mais assez près de l'événement pour que des chercheurs de l'école majoritairement ou qui en sont proches ou que nous connaissons, avec lesquels nous aimons travailler, viennent avec vous discuter d'une question d'actualité. Cette question s'est posée, vous le savez, avec ce qu'on a appelé l'affaire Dieudonné, et il y a des guillemets, c'est-à-dire la sorte de folle journée. Alors Nantes est habituée aux folles journées, la folle demi-journée. C'était, je crois, le 9 janvier dernier, donc il y a trois semaines, la folle journée lors de laquelle successivement a été annoncée, autorisée, puis interdite, puis ne s'est finalement pas tenue, donc la prestation, le spectacle de Dieudonné devant son public à Nantes. Et peut-être ce qui a été le plus intéressant, nous allons bien sûr avec nos invités que je vais vous présenter discuter du fond, mais sans doute faut-il voir aussi la manière dont ce moment a été reçu, commenté dans la société française, chez les intellectuels, dans les titres classiques de la presse, et évidemment Le Monde ou la télévision. Et donc c'est un peu de tout cela que nous voudrions parler ce soir. Alors il serait évidemment extraordinairement paradoxal qu'un débat qui porte sur la liberté d'expression ne laisse pas à la salle l'essentiel du temps de parole. Donc nous allons essayer ici à la tribune de faire en sorte que nos exposés soient relativement bref, de façon à ce que nous puissions échanger avec vous, et d'une certaine manière, ce que nous n'aurions pas eu. Vous voyez que j'ai là quelques livres un peu épais, donc il y a sans doute pas mal de choses à dire. Ce que nous n'aurions pas eu le temps de présenter dans l'exposé liminaire ferait l'objet des discussions. Alors, ces intervenants, par ordre de la gauche à la droite, de ma gauche à ma droite, Olivier Kayla, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, donc juriste, agrégé de droit public, spécialiste de théorie du droit, théorie des normes. Il est l'auteur d'un certain nombre d'articles, dont un article il y a, je pense, à la fin du XXe siècle, au début du XXIe, sur un arrêt dont il sera sans doute question, un arrêt du Conseil d'État autour de la notion de dignité, qui est un élément nouveau dans le droit public. Et donc Olivier Kayla a aussi dirigé en 2010 un dictionnaire des grandes œuvres juridiques, donc un travail de vulgarisation, de présentation de ce qu'est le droit. Et si j'ose dire, ce que nous allons essayer de faire ce soir, c'est de voir avec vous qu'est-ce que c'est que cet objet droit et pourquoi et comment il influe sur quelque chose qui semble être une question aussi éminemment politique. Sabina Loriga est historienne au Centre de recherche historique. J'ai oublié de dire que ce débat est organisé en même temps par les cercles de formation de l'EHESS et par le Centre de recherche historique, donc une unité CNRS-EHESS, et plus spécialement au sein de ce centre, par une équipe jeune, une équipe récente, le groupe d'études des historiographies modernes, auquel appartient Sabina, comme moi d'ailleurs. Donc Sabina est historienne moderniste, elle travaille sur les historiographies à partir de travaux sur l'époque moderne. Elle est aussi, et ça justifie s'il le fallait sa présence ce soir, animatrice, fondatrice de l'atelier sur les usages publics du passé, donc, dont elle nous parlera, une réflexion à la fois sur les constructions mémorielles, sur la fonction de l'histoire, sur la manière dont l'histoire est un élément qui structure le débat public et le débat politique. Thomas Hochmann, à ma droite, est maître de conférence en droit public à l'université de Champagne-Ardenne, l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Il y enseigne, comme tout maître de conférence de droit public, le droit constitutionnel et le droit administratif, j'imagine, sans doute aussi les libertés publiques. Et Thomas Hochmann a rédigé, puis soutenu, une thèse volumineuse et que je vous conseil, si vous avez un petit peu de temps et d'appétence pour ce genre de sujet, le négationnisme face aux limites de la liberté d'expression, étude de droit comparée, dans lequel, autour de cette question, ce qu'on appelle plus généralement le discours de haine, mais plus spécifiquement la négation de l'Holocauste, donc comment le droit français, le droit allemand, le droit américain, de la Cour suprême américaine, et le droit de la Cour européenne des droits de l'homme, hein, ce qu'on appelle la Cour de Strasbourg, ont abordé cette question et les enjeux, les équilibres auxquels cette question, précisément, ces équilibres que le droit doit traiter et ces tensions, en fait, que cette question génère en matière de droit. Et moi, mon nom est devant vous. Je suis directeur d'études à l'École des études en sciences sociales et j'ai commis, non sans peine, mais à l'automne dernier, un ouvrage intitulé « Des lois indignes, les historiens, la politique et le droit qui part d'un texte qui s'appelait « Liberté pour l'histoire », qui était une sorte de protestation assez vigoureuse d'un nombre important d'historiens importants contre les lois dites mémorielles, au premier rang desquelles la loi Guesso, et brodant sur ce texte ou réfléchissant sur ce texte, j'ai essayé de démêler un écheveau que l'on va trouver mutatis mutandis. Alors je ne dis pas que cette pétition aurait pu entièrement se décalquer en liberté pour l'humour, mais de fait, pas mal de problématiques qui sont apparues, et il est évidemment hors de question pour moi de comparer la personne de Dieudonné avec quiconque des signataires de la pétition. On n'est pas du tout dans le même type de registre, mais il me semble que pas mal de réflexions, et j'oserais presque dire d'approximations, peuvent être transcrites d'un cas vers l'autre. Alors, l'idée, précisément, après ces quelques semaines, c'est d'essayer de replacer ce qui fut donc ce moment un peu intense, cette sorte d'emballement de la justice a-t-on pu penser, ou de l'opinion, de le replacer dans un temps moyen, voire un temps long. Alors si le livre de Thomas Hochmann vous fait peur par son volume, voire par sa technicité, mais après tout le droit est fait pour être lu et commenté, vous pouvez lire ce livre plus mince de Vladimir Jankélévitch, L'imprescriptible, qui donc un jaillissement, une protestation. La base de ce texte date de 1965, c'est un article dans lequel Vladimir Jankélévitch commente une loi qui venait d'être promulguée. Elle avait été promulguée le jour de Noël 1964, le 25 décembre, à Colombey-les-Deux-Églises, par le général de Gaulle, et qui inscrivait dans la loi française l'imprescriptibilité du crime contre l'humanité. Et Vladimir Jankélévitch revenait sur les débats. La loi avait certes été votée à l'unanimité, mais on avait pu lire ça et là quelques protestations, et donc revenait là-dessus, en disant, mais peut-on considérer véritablement, et je pense qu'on est pleinement dans des débats beaucoup plus récents, peut-on considérer véritablement qu'il s'agisse là d'une opinion? Peut-on considérer que nier l'assassinat collectif, industriel, organisé de millions d'hommes, de femmes et d'enfants dans des usines faites pour cela, hein, des camps à tuer, peut-on considérer que ce soit simplement une opinion et qu'on puisse être pour ou être contre? Donc le débat, quoi qu'on puisse penser, certes, nous sommes dans une sorte de moments d'accélération. Donc les choses, tout se sait tout de suite, mais ce débat a des racines anciennes, de temps moyen, et on le verra lorsque nos amis juristes parleront des arrêts du Conseil d'État. L'arrêt canonique, d'une certaine manière, il est de 1933. Il s'appelle les arrêts du Conseil d'État, ce sont les grands moments fondateurs de la jurisprudence, ce sont des cas. Donc il y a toujours une histoire au départ, de même qu'il y a un arrêt qui doit s'appeler Mbalambala, plus que Dieudonné. Enfin, pour l'instant, c'est une ordonnance. Donc il y a un cas, de même qu'à l'occasion de ce cas Dieudonné, nous allons poser des questions plus générales. Benjamin, c'est un monsieur d'extrême droite, Action française, en 1933, qui est venu faire une conférence dans une ville, mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure, et cette conférence a été interdite pour des raisons que le Conseil d'État a critiquées, a condamnées. Et donc, c'était cette jurisprudence, avec notion d'ordre public, qui était fondatrice, qui reste fondatrice. C'est d'ailleurs un arrêt qui est cité dans l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'État, qui est cité à côté d'un autre arrêt, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, de 1995, sur la dignité de la personne humaine, et à côté d'un texte, d'un avis, sur que je commenterai sans doute dans le débat, d'Am Hoffmann-Glemann, à propos de la spécificité, d'une certaine manière, de l'Holocauste en France. De l'Holocauste en général. Alors, je vous l'ai dit, nous allons essayer d'être brefs, donc une heure, et peut-être même un peu moins à la tribune et un peu plus à la salle. Nous avons considéré également que c'était plutôt nos amis juristes qui allaient apporter des éléments, oserais-je dire, de technicité, ou en tout cas une vision à la fois juridique et politique du sujet qui nous réunit ce soir. Et donc nous allons procéder en deux temps. J'ai grosso modo épuisé mon temps de parole initiale, hein, donc de présentation, non pas du sujet. Nous avons évidemment renoncé à vous projeter du Dieudonné. Et on le voit sur YouTube, hein, on ne le voit que trop. Et quand on regarde... Que trop, non, il faut le voir. Quand on regarde le nombre de fois où ces vidéos étaient consultées, c'est impressionnant, on est en millions. Donc le matériau est connu, s'il ne l'est pas, on vous en apportera quelques éléments peut-être. Donc Sabina va d'abord, en historienne et j'allais dire en animatrice de cet atelier sur les usages publics de l'histoire, peut-être faire un détour par la question de l'humour. Alors on sait que la fiction, évidemment, l'histoire n'appartient à personne. Hein. Elle est sans doute une science, mais elle est un moment, un élément du débat public. Et on a vu au cours des années passées, lorsque des œuvres de fiction, les bienveillantes ou d'autres, des œuvres de cinéma, se sont emparées de sujets historiques, et spécialement de sujets historiques lourds, cela a générer des discussions. Et les écrits de fiction comme écrits d'histoire sont en soi matière à réflexion historique et civique sans doute aussi. Ce cas particulier de fiction qu'est l'humour appelle peut-être un mode de lecture, de réaction spécifique. Et donc Sabina parlera d'abord, puis Olivier Kaila, qui est là à propos donc, de cette notion, à la fois ce qui est en jeu là, pourquoi les deux juges, celui de Nantes et quelques heures plus tard, le juge d'appel, qui est le Conseil d'État, pourquoi ont-ils jugé, comment ont-ils jugé, qu'est-ce qui était au cœur, au fond, de la problématique, qu'est-ce qui fait qu'à partir des mêmes éléments, une décision a renversé l'autre, et on verra avec Olivier Kaila que la notion de dignité, l'entrée de la notion de dignité de la personne humaine dans l'ordre public juridique est un élément important. Puis, avec Thomas Hochmad, pour clore cette première partie, sans doute une mise en perspective avec d'autres cas et peut-être le cheminement de la jurisprudence allemande bien placée pour se poser ce type de questions. Voilà, sans plus tarder, je passe la parole à Sabina. Je lui passe en même temps Merci. Boucle numérique.
Merci Marc-Olivier. Et donc, comme Marc-Olivier vient de l'évoquer, maintenant je vais indiquer quelques points de façon générale, en même temps télégraphique, sur lesquels on pourra revenir dans la discussion. Et je voudrais commencer par trois spots, par trois prémices. La première concerne, je dirais, le statut des vérités historiques, qui sont des vérités, on pourrait dire, sensibles et vulnérables, peut-être plus fragiles que les axiomes ou les découvertes scientifiques. En effet, l'histoire occupe un espace moyen, hybride, qui touche la vie quotidienne et qui est marqué par ce qui est précaire, indéterminé et changeant. Donc, étant donné que tout ce que s'est produit dans le passé aurait pu être autrement, les possibilités d'interpréter le passé sont très larges. De ce point de vue, la fragilité de la vérité historique n'est que le revers de la contingence du passé. Cette fragilité est à la base de ce que Hannah Arendt a appelé l'arbitraire terrifiant. Qu'est-ce que c'est l'arbitraire terrifiant ? C'est la transformation de vérité et de fait en opinion. C'est ce qui permet de prendre presque n'importe quelle hypothèse et agir en faisant semblant que cette hypothèse est vraie, qu'elle marche, que cette hypothèse marche. On pourrait dire que c'est la construction de pseudo-événements. La construction de pseudo-événements est arbitraire, car elle est fondée sur un étrange mépris pour les faits. Elle est aussi terrifiante, pour reprendre les termes de Hannah Arendt, car elle risque de bouleverser le sol sur lequel nous vivons, c'est-à-dire sur lequel nous nous tenons. Donc, s'il n'y a plus ce sol, on risque de perdre notre capacité, notre faculté de jugement. Deuxième prémisse, ce sont des prémisses différentes, mais pour donner la complexité, me semble-t-il, du problème. Deuxième prémisse, l'usage, ou plus exactement les usages du passé par des non-historiens ne sont pas une nouveauté. Marc-Olivier vient de le rappeler, le passé n'est pas le monopole des historiens. Il y a tout simplement des usages qui enrichissent notre compréhension du passé, mais il y a aussi des mésusages, et dans ce cas, l'histoire n'est plus une forme de connaissance, mais une modalité de pouvoir. Troisième prémisse, au cours du XXe siècle, la manipulation intentionnelle et délibérée des témoignages historiques a été une pratique courante des régimes totalitaires. Cependant, dans les dernières décennies, nous avons découvert que les manipulations ne sont pas une prérogative exclusive des régimes totalitaires. Il suffit de repêcher, je dirais, quelques exemples dans les dernières décennies, des journaux de Hitler publiés par un hebdomadaire allemand dans les années 80, aux milliers de corps éventrés des fosses de Timișoara, aux cormorans goudronnés de la guerre du Golfe, à l'accusation formulée par l'administration Bush contre l'Irak de posséder des armes de destruction massive, etc., etc. On pourrait donner de nombreux exemples. Ce qui compte est que nous avons eu affaire à plusieurs reprises à la manipulation aux mensonges délibérés par la déformation des sources et des archives et à l'invention de ce qu'on peut appeler des passés mythiques. C'est dans cette perspective qu'un grand historien tel que Yerushalmi a parlé de viol brutal des faits. Alors, donc, nous avons l'habitude dans ces dernières décennies. Toutefois, et je viens à notre affaire, les stratégies de manipulation du passé ne sont pas toujours les mêmes. Pendant les années 80, dans les sociétés occidentales, la manipulation intentionnelle, je pense en ce moment surtout à la Shoah, a été pratiquée en particulier par des professionnels de la politique et par des soi-disant scientifiques. En France, par exemple, à la fin des années 70, l'interview de l'ancien commissaire aux questions juives, Louis Darquier de Pellepoix, a ouvert une décennie particulièrement troublante et difficile de ce point de vue. Et on a vu à répétition, du côté politique, Jean-Marie Le Pen, qui a déclaré que les chambres à gaz sont un point de détail. Et du côté, soi-disant, scientifique universitaire, il y a eu l'affaire Forisson et négationnisme. Depuis ces années-là, il me semble que la manipulation, le viol des faits, a pris des formes différentes. Et là aussi, je voudrais indiquer deux points de manière télégraphique. Tout d'abord, il me semble qu'on est passé de la négation à la banalisation. Au lieu de nier les chambres à gaz, on dit que les Juifs exagèrent. C'est Dieudonné qui déclare « Maintenant, il suffit de relever la manche pour montrer son numéro et avoir le droit à la reconnaissance. » Ensuite, on a quitté les habits de la réflexion scientifique pour endosser les habits plus séduisants de l'humorisme. On pourrait dire qu'on a découvert la charge humoristique du mensonge. C'est Dieudonné qui interprète un sioniste levant les bras et disant « Israël Heil ». C'est un point important, car l'humorisme permet de passer constamment d'une position à l'autre et de créer une confusion. Le discours de la haine, de cette manière, suit un rythme complexe. Un pas en avant, deux pas en arrière. Je tiens des propos indécents, mais je dis que j'étais en train de plaisanter. Donc, je peux me dérober, me soustraire à toute critique. Ces changements se sont développés dans un contexte en partie nouveau. Je veux dire que l'enceinte de l'humorisme a changé. Alors, un petit rappel qui est évident. L'humoriste travaille à travers la transgression. La transgression ouvre, élargit la culture, la civilisation. Plus le comédien transgresse, plus il contrevient, plus il est convaincant et plus enrichit notre esprit critique. C'est pour cette raison qu'on lui reconnaît une sorte d'immunité ou de liberté renforcée, comme on dit. On pourrait dire que l'espace de l'humorisme est un espace à l'envers. Sauf que pour fonctionner en tant qu'espace à l'envers, l'humoriste doit contenir la transgression du point de vue de l'espace et du temps. On reconnaît à l'humoriste le droit d'accommoder les faits, de prononcer des propos indécents, justement parce qu'il joue dans un espace ou dans un temps qu'on pourrait dire fermé ou même, on pourrait dire, sacré, sous certains points de vue. En outre, le spectacle devrait inclure une distance entre l'humoriste et les personnages qu'il interprète à l'image de l'acteur du théâtre. Il est ludique avec un second degré qui autorise les excès. Aujourd'hui, pour des raisons en partie évidentes, mais qui mériteraient d'être étudiées de manière attentive, la situation a changé et on peut se demander si l'enceinte de l'humorisme est encore en mesure de contenir la transgression. Le discours humoristique est sorti du cabaret, n'est plus cantonné à une dizaine, centaine de spectateurs. Les superpositions, les invasions, les échanges entre l'espace public et l'espace du spectacle sont devenus plus intenses. D'une part, Dieudonné invite sur scène Forisson. Il lui remet un trophée en forme de chandelier sur lequel sont plantées des pommes par un technicien habillé en pyjama à carreaux avec une étoile jaune. Et de l'autre, les fans de Dieudonné font la quenelle hors du théâtre. Et par ailleurs, Dieudonné présente sa liste aux Européennes et dans cette occasion, il se réjouit de glisser sa petite quenelle au fond du fion du sionisme. De plus, grâce à Internet, Dieudonné a créé un espace singulier, intermédiaire entre le public et le privé, où le discours de la liberté d'expression se mêle au discours de la haine. Ainsi, on peut se demander si le seuil des dents dehors est encore visible ou perceptible. On peut aussi remarquer que ce genre d'humorisme n'est pas circonscrit. Et là, je pense que c'est un autre point sur lequel je m'interroge. Loin de toucher un seul élément, ce genre d'humorisme vise un complet réarrangement de toute la texture factuelle de l'histoire. C'est un réarrangement fondé sur un scepticisme qu'on pourrait définir conspirationniste et victimaire à la fois, c'est-à-dire que le point de départ est simple et presque automatique. L'histoire a toujours été et sera toujours écrite par les vainqueurs, un lobby, dans ce cas juif, mais ça pourrait être un autre lobby, à la main sur toutes les sphères du pouvoir, politique, financière, médiatique, artistique. Et c'est dans cette perspective, justement, dans ce réarrangement de la texture de l'histoire, que la quenelle se présente comme une blague et un symbole de rébellion de la part des plus démunis ou des plus lésés. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps.
Encore 3 minutes.
Alors, j'aurai quelques exemples, c'est-à-dire pas des exemples, mais je voudrais évoquer quelques passage semblable dans le contexte italien. Alors, je ne sais pas, je te demande si tu préfères que je le fasse après dans la discussion et je m'arrête là, ou je peux le faire.
Non, ben alors, à ce moment-là, oui, ça reviendra pour illustrer le propos après. Tu les gardes chauds.
D'accord, je les garde chauds et je termine seulement, donc, alors, disons que, en disant que j'ai cité justement des discours de haine antisémite liés à l'affaire Dieudonné, mais il est évident que ce problème du viol de la réalité, de la manipulation intentionnelle et délibérée touche d'autres sujets fondamentaux pour l'avenir de notre société, et je commence par ce seul comparaison avec l'Italie. Si en France, Christian Taubira a été traité de gagnant, en Italie, la ministre de l'intégration Kieng, d'origine congolaise, a été comparée par la Ligue à un orang-outan. Donc, dans les deux pays, des nouvelles insultes racistes sont prononcées de manière, humoriste. Merci.
Merci beaucoup. Olivier.
Bon, je te remercie. Je vais essayer d'être le plus clair possible, le plus rapide possible, tout en étant le plus complet possible. Je ne sais pas trop quelle mesure c'est envisageable. Alors, ce que nous avons à examiner d'un peu plus près, c'est non seulement la prestation et la nature de la prestation de Dieudonné, mais c'est aussi et surtout la réaction de l'État français par la voie de la justice, et notamment de la justice administrative, et de tâcher d'en comprendre et la nature et la portée. Qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, dans un premier temps, le ministère de l'Intérieur a rédigé une circulaire qui a été adressée à des préfets qui ont eu pour mission de répandre les recommandations qui étaient faites dans cette circulaire auprès des maires de toutes les communes de France pour leur demander de bien vouloir être sensibles aux problèmes posés par le spectacle de Dieudonné et de bien vouloir interdire le spectacle s'il devait se produire dans leur ville, en s'appuyant sur des pouvoirs dont tous les maires en France sont dotés en vertu de la loi, qui sont des pouvoirs de police administrative. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce que c'est que la police administrative. La police administrative, ce sont des compétences qui sont accordées à des autorités administratives et qui, quand il s'agit des maires, disposent d'un pouvoir dit de police générale, c'est-à-dire qu'ils disposent, en vertu de la loi, du moyen de prendre toute mesure utile à défendre l'ordre public lorsque cet ordre public est menacé pour des questions qui relèvent de la salubrité, de la sécurité ou de la tranquillité publique. Sécurité, salubrité, tranquillité publique, c'est ce que dit la loi. Cette disposition donne aux maires le pouvoir d'intervenir donc pour toute question qui se poserait du point de vue de la sécurité, salubrité, tranquillité publique et d'une manière générale sur le bon ordre public. Cette compétence se distingue de celle dite de police judiciaire qui est accordée aux corps de police qui sont chargés par les juges de mener des enquêtes, des perquisitions, des actions diverses en vue d'être utiles aux poursuites pénales qui sont engagées contre des citoyens. La police administrative, c'est la prévention, la police judiciaire, c'est la répression. Il faut distinguer les deux dimensions de la police, les deux définitions de la police. Là, nous parlons de la police administrative qui sont des compétences dévolu à des représentants de l'administration, du pouvoir exécutif, mais à l'échelon local, ce dont je parle, c'est du pouvoir des maires, et dans un but de prévention. Depuis 1933, Marc-Olivier en a parlé tout à l'heure, il existe une jurisprudence fondatrice du droit de la police administrative des maires, et qui, évidemment, ne peut pas être comprise si on ne réfléchit pas à ce que c'est que le pouvoir de limiter l'exercice d'une activité d'une personne privée pour la défense de l'ordre public. L'ordre public qui est invoqué en matière de police administrative, qu'est-ce que c'est ? C'est l'argument qui consiste à dire qu'il est justifié d'apporter une limitation à l'exercice non seulement des activités privées, mais des activités qui ont le caractère de droits fondamentaux, de droits de l'homme. Des activités qui sont caractérisées comme droits de l'homme en vertu des textes fondateurs en matière de droits de l'homme, comme la déclaration 1789 notamment. 1789 qui a un caractère constitutionnel dans la France d'aujourd'hui. Donc, dire qu'on va prendre des mesures de police au nom de l'ordre public pour limiter l'exercice des libertés publiques, des droits fondamentaux ou des droits de l'homme, c'est dire qu'on va donc invoquer des arguments d'intérêt supérieur qui présentent un caractère véritablement extrêmement important parce que de nature à mettre entre parenthèses l'exercice effectif des droits de l'homme, ce qui n'est pas rien. Alors, dans une telle perspective, le principe en 1933 retenu par le Conseil d'État est de considérer qu'une mesure de police prise par un maire est légale, si et seulement si, cette mesure est prise pour la défense de l'ordre public uniquement dans la mesure où elle est proportionnée, cette mesure, à l'intensité de la menace qui pèse sur l'ordre public. Autrement dit, l'idée, c'est que naturellement, dans un régime libéral qui découle directement des déclarations de 1789, la liberté est de principe, les droits de l'homme sont de principe, et les restrictions à la liberté sont seulement d'exception, et donc ne peuvent présenter qu'un caractère strictement exceptionnel. Donc, il est possible d'aller et venir, il est possible de se réunir, il est possible de s'exprimer, il est possible de pratiquer la religion de son choix, etc., etc. En principe, de manière absolue, le seul moment où il est possible de relativiser l'exercice de cette liberté, c'est dans les moments où ça pose un problème pour l'ordre public. Et la position du Conseil d'État dans l'arrêt Benjamin 1933, c'est que cette restriction à la liberté ne peut se faire que de manière proportionnée à l'intensité de la menace qui pèse pour l'ordre public. Autrement dit, si par exemple, il y a des manifestants qui menacent le bon ordre pour l'organisation d'une réunion publique, le maire n'a la possibilité de prendre des décisions restrictives de la liberté que de manière proportionnée. Si donc les manifestants sont peu nombreux, il est hors de question d'interdire la réunion. On se contente de mettre en place un dispositif policier qui permette de faire mettre des barrières et que la réunion se tienne, puisque tenir cette réunion est un droit de l'homme, que cette réunion se tienne sans pour autant qu'elle soit interdite. Il n'y a que donc dans les cas de menace la plus grave, la plus importante et auquel il est difficile de faire face en évitant l'interdiction, il est dans ces cas nécessaire d'interdire parce que précisément on ne peut pas défendre l'ordre public autrement. Donc ces cas doivent être très exceptionnels parce qu'ils sont contraires aux droits de l'homme. Alors, je veux dire, l'ordre public, c'est une entorse aux droits de l'homme, mais une entorse considérée comme légitime dans le cadre légal d'un état de droit. Bon. Je n'insiste pas, je ne développe pas ce premier point sur lequel il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, notamment qu'il s'agit d'un ordre toujours matériel, c'est-à-dire qu'on parle d'un ordre qui risque d'être menacé sur le plan matériel, sécurité, salubrité, tranquillité publique. Par exemple, les gens qui font du tapage nocturne, on peut calculer le tapage nocturne à partir d'un certain nombre de décibels, au-delà duquel on est dans le tapage nocturne, au-delà duquel on n'est pas dans le tapage nocturne. La question, du danger que représente la prostitution sur la voie publique conduit aussi à... la question du danger que menacent certains immeubles qui menacent ruine et qui risquent de poser un problème de sécurité pour les passants dans la rue est quelque chose qui se mesure. Et donc les restrictions à l'exercice de la liberté du propriétaire de cet immeuble qui est obligé de faire des travaux de réparation de l'immeuble qui menace ruine par mesure de police de la part du maire, c'est quelque chose qui donc peut apparaître comme légal ou illégal en fonction des mesures qui sont prises du degré d'avancement de la détérioration du bâtiment. Bon, maintenant, Il se trouve qu'en 1959, le Conseil d'État était confronté à une nouveauté dans le contrôle qu'il a eu exercé de la légalité des mesures prises par les maires en matière de police, et qui était précisément dans le domaine du spectacle. C'est en 1959 que sont apparus dans les cinémas des diverses villes françaises des films dits à caractère licencieux, c'est-à-dire les films qu'on appellerait érotiques aujourd'hui. On voyait des actrices au sein dénudées proposer des versions un petit peu légères de la vie de Sainte-Thérèse de Lisieux, des choses comme ça. Et dans cette ambiance un peu libertine, typique des années 60, certains maires ont considéré que non seulement le ministère de la Culture et la commission de censure, qui est sous son autorité, peut donner des autorisations ou des limitations de public pour des films à l'échelon national, mais que le maire, même pour les films autorisés à l'échelon national, pouvait interdire telle ou telle projection de tel ou tel film problématique. Par exemple, la vie sexuelle de Sainte-Thérèse de Lisieux risque de poser des problèmes d'ordre public à Lisieux, plus qu'à Romorantin ou à Boulogne-Billancourt. Bon. Donc, en considération de ce type de sensibilité propre à chaque population dans chaque collectivité locale, le Conseil d'État a jugé pensable que le maire ait la possibilité d'interdire la projection d'un film qui risquait de choquer la population dont il est le responsable. On a donc admis qu'aux éléments matériels qui étaient classiquement défendus pour la question de l'ordre public en matière de police pouvaient s'y ajouter des éléments immatériels ou des éléments moraux, qui sont donc, dans une certaine mesure, le trouble des consciences des spectateurs de tel film, dans tel... Le Conseil d'État estimait donc qu'il était légal d'interdire la projection d'un film, seulement si des circonstances locales le justifiaient. Donc, je le répète, la vie sexuelle de Thérèse de Lisieux, à Lisieux, est peut être interdite, mais ne peut pas être interdite à Romorantin, tout simplement parce que la population de Romorantin n'est pas directement concernée par l'aspect choquant d'un film sur la vie sexuelle de Sainte-Thérèse de Lisieux. Bon. Voilà la position du Conseil d'État. L'idée étant que, naturellement, en matière de moralité, les maires ne doivent pas censurer des spectacles comme ça, librement, d'après leur appréciation purement subjective. Un minimum d'objectivité doit pouvoir être constaté. Et donc, le critère des circonstances locales est apparu comme pertinent de ce point de vue, comme une sorte de... Où est-ce que je veux dire ? On peut se prémunir contre le danger d'ordre moral que les maires feraient régner dans leur commune. Mais... Il se trouve qu'en 1995, comme Marc-Olivier l'a dit tout à l'heure, et comme le juge qui est intervenu dans l'affaire Dieudonné le vise lui-même, est intervenu une nouvelle évolution de la jurisprudence en matière de police administrative, alors là, très, très radicale, qui a complètement bouleversé la notion d'ordre public telle qu'elle avait été jusque-là conçue. Ce bouleversement, en 1995, est dû à des faits divers qui sont connus et qui sont restés dans la mémoire collective comme des faits de lancer de nains. Une activité de lancer de nains avait été inventée par un monsieur qui était nain lui-même et qui proposait de monter des spectacles où il se produisait dans des boîtes de nuit ou demander aux spectateurs des boîtes de la boîte de nuit de jouer un concours de celui qui lancerait le nain le plus loin possible. Donc le nain en question qui montait ce spectacle était celui qui se proposait comme projectile pour participer au concours de l'enseignement. Bon. Ça a provoqué un tollé, ça a provoqué des réactions de très grande indignation qui ont déclenché, exactement comme dans l'affaire Dieudonné, des mouvements divers de la part d'associations. Le ministre de l'Intérieur a lui aussi rédigé à l'époque une circulaire en demandant au préfet de bien vouloir demander au maire d'interdire un tel spectacle. Et c'est ce qui s'est passé. Et l'argument qui a été invoqué était que ce spectacle de lancer de nains, qui consistait à manipuler une personne de petite taille comme un simple objet, et à, si vous voulez, conduire les spectateurs de la boîte de nuit ou les clients de la boîte de nuit à s'amuser d'une telle manipulation et à rire du caractère comique d'un tel spectacle dont le nain apparaissait comme étant, en tant que nain, la principale cause d'hilarité, cette activité a donc été interdite. Et le Conseil d'État, à l'époque, a considéré que cette interdiction prononcée par un maire au nom d'une atteinte à la dignité de la personne humaine était un argument invocable parce que le Conseil d'État a jugé qu'à partir de ce moment-là, on pouvait considérer que non seulement l'ordre public pouvait se composer d'éléments matériels, sécurité, salubrité, tranquillité publique, mais également d'un élément désormais immatériel, la sauvegarde de la dignité humaine. Bon. C'est la décision qui a été prise. Alors, en réalité, je reviendrai donc pendant la discussion sur l'événement qui a été considérable à la suite de cet arrêt, qui a consisté à complètement bouleverser la notion d'ordre public, puisque, à partir de ce moment-là, l'ordre public se conçoit non seulement comme étant l'argument qu'on invoque pour dire à un individu qu'il peut jouir de ses libertés à condition de respecter la liberté d'autrui, en étant tranquille, en ne présentant pas de danger pour sa sécurité, en étant... etc. Mais on dit... En plus, à partir de cet arrêt, que pour des raisons d'ordre public, on peut interdire à un individu d'avoir une activité qui porte atteinte non seulement à la dignité humaine quand il s'agit de la dignité d'autrui, mais même quand il s'agit de sa propre dignité à lui. Un nain qui monte un spectacle de lancer de nains est coupable d'une atteinte à la dignité des nains. Voilà le problème posé par cet arrêt, c'est qu'on est en train d'opposer à un nain le respect de sa propre dignité pour justifier l'interdiction du spectacle qu'il veut faire au nom de l'ordre public. Et donc, l'ordre public apparaît comme un argument qui, non pas oppose à l'exercice individuel d'une liberté publique l'argument de la défense des intérêts de la société, mais qui, au contraire, fait du rapport de soi à soi, d'un individu à lui-même, du rapport tout à fait intime d'un individu avec sa propre nature humaine, un élément social, comme si la société avait un droit de regard à porter sur le traitement qu'un individu s'inflige à lui-même. Une sorte de confusion, si vous voulez, entre l'idée de nature et de société qui avait été théorisée à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire précisément à l'époque des Lumières et de la Déclaration des droits d'homme de 89, qui est précisément au cœur de l'esprit libéral du droit de la police administrative tel qu'il a été confirmé par l'arrêt Benjamin dont j'ai parlé tout à l'heure. Bon, cet arrêt a fait l'objet de très vives critiques. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le Conseil d'État, après l'avoir lancé, en a limité la portée en disant qu'il ne l'appliquerait pas à d'autres cas. On n'utiliserait pas l'argument de la dignité dans d'autres affaires de police administrative, en disant qu'une activité doit être interdite parce que portant atteinte à l'ordre public, parce que portant atteinte à la dignité. Et pourtant, c'est justement ce qui se passe dans l'arrêt Dieudonné. C'est ce qui se passe dans la
C'est la première fois que ça réapparaît.
Alors, c'est la première fois. La seule chose, c'est que le Conseil d'État s'est progressivement éloigné de cette jurisprudence en marquant une sorte de distance par rapport à sa propre jurisprudence. Il a marqué notamment dans un avis dont on a beaucoup parlé à l'époque, mais peu depuis quelques jours, là, dans cette affaire, et qui est un avis très important. Il se trouve que le Conseil d'État avait été, en tant qu'organe consultatif, avait été donc consulté à propos, au moment de l'élaboration de la loi de prohibition de la burqa, la fameuse loi interdisant la dissimulation du visage. Il se trouve que cette loi posait un problème à l'égard non pas des femmes qui étaient forcées de porter la burqa par leur mari ou par des hommes, mais le problème des femmes qui portent la burqa de leur plein gré, volontairement. Les femmes qui veulent afficher leur conviction religieuse musulmane en disant « je veux porter la burqa », ces femmes sont donc dans la même situation que le nain, généralement tenues comme étant des femmes qui prennent l'initiative de porter elles-mêmes atteinte à leur propre dignité de femme en se mettant elles-mêmes en situation d'infériorité, en marquant elles-mêmes, par le port de la burqa, l'infériorité de leurs conditions par rapport à la domination masculine, quoi, globalement. C'est l'argument qui avait été employé à l'époque par les hommes politiques qui élaboraient, hommes politiques de tous bords d'ailleurs, puisque la loi sur la burqa a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, par les députés de droite comme par les députés de gauche. Et donc, tout le monde raisonnait dans ces termes, de l'atteinte à la dignité, en réutilisant l'argument qui avait été utilisé à propos du lancer de nain. Et là, le Conseil d'État a dit, il vaut mieux ne pas utiliser cet argument de la dignité, précisément parce que, depuis le lancer de nain, on s'est rendu compte que cet argument était discutable, qu'il était finalement assez peu clair, assez contestable. Et d'ailleurs, il se trouve que la Cour européenne des droits de l'homme, elle-même confrontée à une situation du même genre, a désavoué cet argument et a considéré que dans une activité sexuelle d'un type un petit peu particulier de sadomasochisme, où quelqu'un donne des coups à un partenaire sexuel masochiste, mais à sa demande, ce quelqu'un, donc, dit la Cour européenne des droits de l'homme, fait quelque chose de parfaitement légal, qui n'est pas pénalement répréhensible, qui ne porte pas atteinte à l'ordre public, tant que la personne est consentante. Mais naturellement, si la personne continue de porter des coups au-delà du consentement du masochiste, sans tenir compte de sa demande de grâce ou de stopper la douleur qu'il inflige, alors on rentre dans une activité qui n'est plus consentie, qui est une activité, donc, attentatoire à la dignité de l'autre. Mais tant que le masochiste est consentant, alors il s'agit d'un rapport de soi à soi. Et si l'intéressé veut, dans une certaine mesure, qu'une activité sexuelle qui lui donne du plaisir lui porte... s'il considère que ça ne lui porte pas atteinte à sa propre dignité, il n'y a pas de raison de se substituer à son jugement subjectif. Bon. Voilà. Donc le Conseil d'État dit... en 2005, dans l'avis qu'il a à rendre sur la question de la burqa, que finalement, il faut se méfier de l'argument de la dignité. Et voilà que, désormais, en 2014, à l'occasion de cette affaire Dieudonné, le Conseil d'État réintroduit l'argument de la dignité dans une question d'ordre public pour justifier une mesure de police administrative qui plus est d'interdiction. Il est évident que l'interdiction ne peut pas... moi, ce que je veux dire, dans une affaire où la question de l'ordre public est une question de dignité, il n'y a plus de principe de proportionnalité qu'on puisse respecter, comme le disait l'arrêt Benjamin. Parce que s'il y a une atteinte à la dignité, elle n'est pas plus ou moins grande qui permettrait de prendre une mesure moins grave que d'interdiction, mais qui pourrait trouver une solution dans le fait de mettre un certain service, ce que je veux dire, des barrières, des services d'ordre, etc., comme quand il s'agit d'une liberté de réunion. Dans une atteinte à la dignité, soit il y a une atteinte à la dignité, soit il n'y en a pas, et donc s'il y a une atteinte à la dignité, elle doit être évidemment être interdite, l'activité en question. Donc, la question de la proportionnalité, de même que la question des circonstances locales, qui avait été au cœur de la jurisprudence des films Lutetia, permettant une censure du projection d'un film par un maire, les circonstances locales ne sont plus envisageables. On ne va pas dire qu'il y a une atteinte possible à la dignité à Romorantin, mais pas à Cannes. Bon. S'il y a une atteinte à la dignité, elle est la même à Cannes comme à Romorantin, ou s'il n'y en a pas, c'est la même chose dans les deux cas. Bon. Alors le problème, c'est que justement, il y a une tension de plus en plus vive, et donc j'essaye d'être clair, mais c'est très compliqué, entre des exigences de dignité qui sont évidemment universelles, la dignité, si elle est froissée, elle l'est partout et toujours, et de pouvoirs de police qui sont donnés à des maires et qui ne sont que des pouvoirs locaux, des pouvoirs de prendre des mesures de défense de l'ordre public dans une localité particulière. Le maire de Cannes ne peut pas prendre des mesures qui soient applicables à Romorantin, et inversement. Donc il y a quelque chose d'inapproprié. C'est la raison pour laquelle, à l'époque de la jurisprudence sur le lancer de nain, quand on avait intégré la dignité à l'ordre public, le juge avait dit « on va prendre cette mesure qui consiste à dire qu'on peut maintenant utiliser le pouvoir de police pour interdire une activité contraire à la dignité, mais si on le fait, c'est uniquement parce que le lancer de nain ne fait pas l'objet d'une possible répression pénale. La loi pénale n'est pas appropriée pour interdire un tel spectacle ou pour le poursuivre pénalement. » La loi pénale est défaillante, et c'est ainsi que le Conseil d'État s'était lancé d'ailleurs dans une analyse qui consistait à dire « il y a lacune de la loi pénale », affirmation qui est en soi absolument extraordinaire, puisque par définition, en droit pénal, il ne saurait y avoir de lacune. Précisément, le principe de la légalité des délits et des peines, qui est elle-même impliquée par le libéralisme de la Déclaration des droits de l'homme, liberté et de principe, restriction de liberté et d'exception. Donc il n'y a que des lois qui peuvent interdire des activités ou même les poursuivre pénalement en les caractérisant comme des délits. Et sans loi, il n'est pas possible de dire qu'il y a des crimes ou des délits. Donc l'idée qu'il n'y a de crimes ou de délits que s'il y a des lois pour le dire est quelque chose qui avait été démenti par le Conseil d'État dans son principe pour dire puisqu'il n'y a pas de loi qui permette de poursuivre l'auteur d'un spectacle de lancer de nain, alors il faut faire cesser une telle atteinte à la dignité par d'autres voies que la justice pénale. Et l'autre voie possible, imaginable, c'est la police administrative. Et donc c'est parce que on n'a pas les vrais moyens de la poursuite pénale qu'on va utiliser l'ersatz, le Canada Dry de la justice pénale qu'est le droit de la police administrative. C'est quelque chose qui ressemble à du droit pénal, mais qui évidemment est autre chose que du droit pénal, mais qui permet de produire des effets du même genre, c'est-à-dire d'interdire ce qui est contraire gravement à l'ordre public. Bon, voilà ce qui s'est passé. Mais justement, ce qu'on observe, dans ces 25 secondes, ce que j'observe, je suis désolé parce que je sens que je ne suis pas d'une grande clarté, mais c'est impossible d'être clair. Ce que je veux dire, c'est que ce qui caractérise la position du juge dans l'affaire Dieudonné est une position qui fait accomplir une sorte de progression encore plus... je ne sais pas comment dire, contestable, en tout cas très de nature à nous faire réfléchir. En effet, ce que dit le juge dans l'affaire Dieudonné, enfin le Conseil d'État, par la voix du juge des référés, alors je reviendrai peut-être dans la discussion sur en fait, le fait qu'il s'agisse d'une ordonnance de juge des référés, donc ce n'est pas exactement un arrêt de la formation collégiale du Conseil d'État, ça n'a pas la même force juridique, mais peu importe. En tout cas, ce que dit le juge des référés du Conseil d'État dans cette ordonnance, c'est que la mission de l'autorité de police administrative, c'est-à-dire en gros du maire ou du préfet dans le cas d'espèce, c'est d'éviter que se produisent des infractions pénales. Et donc, comme Dieudonné caractérisé comme ayant déjà été condamné à plusieurs reprises pour des injures ou des provocations à la haine raciale, et qu'il était condamné pour cette raison, on a tout lieu de penser qu'il risque de récidiver dans ses spectacles, et que donc, il est tout à fait raisonnable de les interdire, ces spectacles, Non pas parce qu'on a pu constater une infraction pénale, parce que si on avait pu constater une infraction pénale, ça serait simple, il y aurait qu'à poursuivre pénalement. Il suffit de dire que l'infraction est constatée par une personne présente dans la salle, un officier de police judiciaire, et puis ensuite on va déposer plainte et l'action judiciaire se met en branle. Ça aurait été parfaitement possible. Mais c'est justement ce que dit le Conseil d'État, c'est possible, mais ce n'est pas suffisant. Vous devez ajouter en plus une action de la police administrative qui va préventivement interdire le spectacle de manière à éviter le risque que se reproduisent de nouvelles infractions. Alors ça, c'est quelque chose qui ne figurait pas dans l'arrêt du Lancé de Nain. C'est même exactement l'inverse de l'arrêt du Lancé de Nain qui disait qu'on allait faire de la police administrative par défaillance de la justice pénale. Là, il ne s'agit pas de défaillance de la justice pénale, il s'agit de faire en plus de la justice pénale de la police administrative. Et donc dans ce cas, il y a quelque chose qui est évidemment un peu bizarre, un peu curieux, qui a été relevé par beaucoup de monde comme étant problématique et qui consiste à dire que désormais l'administration jouirait d'un pouvoir, donc considéré comme légal par le juge, de se substituer aux autorités de pénales pour, dans une certaine mesure, sévir, non pas après une infraction, mais avant qu'elle se produise, en raison du risque qu'elle se produise. Excusez-moi. Donc quelque chose qui fait qu'on est dans une situation tout à fait inédite de censure préalable d'un spectacle qui menacerait d'être pénalement répréhensible sans qu'on ait lui laissé la chance de ne pas l'être en se produisant, précisément. Bon, voilà. Donc, voilà, une dernière chose, si c'est possible, une dernière chose. Il se trouve que cet arrêt, cette ordonnance du juge des référés concernant Dieudonné, on ne peut pas la comprendre sans, Marc-Olivier en a parlé, on reparlera certainement plus amplement tout à l'heure, sans prendre en considération un autre arrêt qui est intervenu dans la période, ou du moins un avis, mais qui a la même force juridique qu'un arrêt du Conseil d'État, Hoffmann-Glemann, qui prend position sur la responsabilité de l'État à propos des crimes commis à l'égard des Juifs par l'État de Vichy et qui conduit l'État républicain d'aujourd'hui à devoir réparer le préjudice causé aux Juifs et à leurs ayants droit d'aujourd'hui pour le préjudice qui a été causé par l'État de Vichy. Bon. Qui donc rompt avec l'attitude qui avait été antérieurement celle de l'État français qui consistait à dire « ce qui a été fait par Vichy, c'est pas la République » et donc ce qui a été fait par Vichy a causé des torts mais ne peut pas être réparé par la République. Bon. Hoffmann-Lehmann confirme ce qui avait été acquis par un premier arrêt du Conseil d'État, Papon, que l'État d'aujourd'hui peut apparaître comme étant responsable pour les crimes commis à l'égard des Juifs par la Vichy. Mais je termine sur ce point. Ce que Hoffmann-Glemann ajoute à cet acquis, qui donc consiste à dire qu'il y a quelque chose qui est de si grave dans le génocide que donc l'État doit être repentant et doit donc s'acquitter d'une dette à l'égard de la population juive pour le fait d'avoir été complice d'un tel crime. Et donc, a fortiori, les citoyens français d'aujourd'hui ont la même obligation, de respect de la mémoire à l'égard des Juifs que l'État français lui-même. Bon, c'est ça que veut dire cette référence à Hoffmann-Glemann. Mais ce qu'Hoffmann-Glemann disait de plus, c'est que cette attitude impérieuse, de nécessaire repentance de la part de l'État français à l'égard des Juifs ne doit se concevoir précisément que à propos du cas de l'Holocauste et du cas des crimes contre l'humanité à l'égard des Juifs, et ne pouvait pas s'admettre à l'égard d'autres revendications qui pourraient éventuellement se faire devant les tribunaux, du genre demander aux tribunaux de condamner l'État français d'aujourd'hui, la République, pour les crimes commis dans le passé, par exemple, à propos de l'esclavage ou à propos de la colonisation, et qui, évidemment, correspond à des revendications faites par d'autres communautés minoritaires au sein de la population française. Or, il se trouve que c'est justement, c'est ça tout le problème, ce public sur lequel s'appuie Dieudonné pour la réussite de ses spectacles, c'est de dire il y a inégalité de traitement entre les victimes, certaines victimes au sein de la population française. Les victimes juives bénéficient d'un traitement dans une certaine mesure de faveur. Il est vrai qu'Hoffmann-Glemann est une position du juge administratif qui, dans une certaine mesure, fige la question de la dette morale de l'État français à l'égard de la population juive sur le seul cas des Juifs, et donc, dans une certaine mesure, l'ordonnance qui s'appuie sur Hoffmann-Glemann pour justifier et argumenter la position prise à l'égard des spectacles de Dieudonné, dans une certaine mesure, avive ou entretient, dans une certaine mesure, la forme de dissidence ou de contestation sur lequel Dieudonné s'appuie pour avoir du succès auprès de ses spectateurs. Et cette espèce donc de maladresse de la part du juge administratif dans le cas d'espèce, qui dans une certaine mesure donne du grain à moudre par sa position à Dieudonné et au spectateur qui prise le spectacle qu'il fait, est un argument que j'ai trouvé récemment exprimé dans un article de Libération écrit par l'avocat maître Thierry Lévy, qui considère qu'il y a beaucoup de maladresse dans cette espèce d'entêtement de l'État à vouloir n'accorder de droit à la réparation qu'aux victimes de l'Holocauste, sans en fermant complètement la porte à toute autre revendication qui pourrait vouloir réclamer un traitement de même nature.
Voilà. Merci. Le débat est déjà lancé, il le sera encore tout à l'heure, il sera en tout cas aussi à la tribune. Je crois que ça amorce bien, ça annonce bien la réflexion de Thomas Hochmann sur la manière dont l'Allemagne, elle, s'est confrontée à cette question de la liberté d'expression spécifique de l'expression négationniste, de l'Auschwitz-Lüge, et donc l'évolution historique que la jurisprudence a apportée. Et je lui passe la parole.
Merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Et alors, je vais effectivement vous parler d'affaires qui sont déroulées en Allemagne, des affaires qui ne sont pas tout à fait similaires à l'affaire Dieudonné, mais qui permettent quand même, je crois, d'éclairer l'affaire Dieudonné et qui touchent notamment précisément à cette relation entre l'ordre public et le droit pénal qu'évoquait Olivier Kaila à la fin de son intervention. Alors, en Allemagne, les limites à la liberté de réunion, elles sont prévues dans une loi qui s'appelle la Versammlungsgesetz, la loi sur les réunions, qui concerne tant les réunions dans des enceintes fermées, comme la nôtre actuellement, que les réunions, les manifestations en plein air. Et ce sont deux types de réunions qui sont soumises, à peu près comme en droit français, à deux types de régimes différents, puisque pour une réunion qui a lieu dans une salle, dans une enceinte fermée, il n'est pas nécessaire d'informer au préalable, avant la réunion, d'informer une autorité, d'informer l'administration. Tandis que pour les réunions qui se déroulent en plein air, pour les manifestations, eh bien, ces manifestations elles sont soumises à un régime de déclaration, donc pas un régime d'autorisation. On n'a pas besoin d'avoir l'autorisation de l'administration, mais on doit au moins déclarer, avant d'effectuer la manifestation, on doit déclarer cette manifestation. Alors, l'interdiction d'un spectacle du type de celui de Dieudonné se range dans la première catégorie, la catégorie des réunions dans des enceintes fermées. Et donc, je vais commencer par vous parler de ces réunions-là. Mais je mentionnerai aussi ensuite le cas des réunions en plein air, parce qu'elles soulèvent des questions qui touchent, elles aussi, très près à l'affaire Dieudonné. Alors, en ce qui concerne d'abord les réunions dans des enceintes fermées, c'est l'article 5 de la loi sur les réunions qui prévoit que ces réunions peuvent être interdites par une autorité administrative lorsque des faits établis indiquent que des expressions vont être tenues qui constituent un crime ou un comportement susceptible d'être poursuivi d'office. Et cette disposition, cet article 5 de la loi sur les réunions, elle a notamment été utilisée dans une affaire au début des années 90 qui a abouti à un très célèbre arrêt de la Cour constitutionnelle allemande, qu'on appelle en général l'arrêt sur le Auschwitz-Lüge, en effet le premier grand arrêt que la Cour constitutionnelle a rendu sur le négationnisme. Alors de quoi s'agissait-il en l'espèce? C'était le parti allemand d'extrême droite, le NPD, qui avait organisé une conférence sur le thème, je cite, « L'avenir de l'Allemagne à l'ombre de l'oppression politique ». Et le parti, dans le tract qui annonçait la conférence, précisait que David Irving, le célèbre historien révisionniste, venait à Munich pour cette réunion et qu'il allait donner une conférence sur l'utilisation de l'histoire comme instrument d'oppression politique. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je trouve que tout ça sonne très dieudonnesque, l'utilisation de l'histoire comme instrument d'oppression politique. Et donc la commune indiqua, donc la ville de Munich, indiqua aux organisateurs qu'ils devraient empêcher, durant cette réunion, ils devraient empêcher toute négation de la persécution des Juifs pendant le national-socialisme. Donc en espèce, il s'agissait pas, la ville n'avait pas opté pour une interdiction, mais pour une restriction. Elle avait dit aux organisateurs, vous ne devrez pas permettre que les crimes nazis fassent l'objet de négation.
Alors, ça pouvait paraître étonnant, parce que la loi sur les assemblées, l'article 5, ne parle que de la possibilité d'interdire les réunions, non pas de leur apporter des restrictions, mais, si vous voulez, dans une logique semblable à celle de l'arrêt Benjamin qui a été évoqué, les tribunaux allemands considèrent que, lorsque c'est possible, il faut préférer de simples restrictions à une interdiction, si de simples restrictions permettent d'éviter la commission d'infraction. D'accord ? Puisque l'article 5 dit qu'on peut interdire une réunion si des propos vont être commis qui sont pénalement répréhensibles. D'accord ? Mais si de simples restrictions ne suffisent pas, eh bien, l'autorité administrative allemande peut interdire la réunion, on le verra. Alors, pour la ville de Munich, dans cette affaire, il était très vraisemblable que soient tenus des propos négationnistes, lesquels sont pénalement répréhensibles en Allemagne. Comment est-ce que la ville justifiait cette appréciation ? Elle se fondait sur le texte de l'invitation, l'Allemagne à l'ombre de l'oppression politique, etc. Elle se fondait sur la personne de David Irving, qui est l'une des figures de proue du négationnisme. Et puis elle se fondait aussi sur le fait que l'organisateur, le NPD, était un parti qui défend des thèses négationnistes. Et donc la commune considérait que cela justifiait le pronostic que des propos négationnistes, des propos pénalement répréhensibles, seraient tenus lors de la réunion. Il y eut des recours. Cette appréciation fut confirmée par les tribunaux. Elle fut confirmée en dernier lieu par la Cour constitutionnelle allemande. Que dit la Cour constitutionnelle allemande ? Elle considéra que cette loi, cet article 5 de la loi sur les réunions, il renvoie aux lois pénales, puisqu'il dit une réunion peut être interdite s'il est vraisemblable que des propos vont être tenus qui enfreignent les lois pénales, et que donc une limitation ou une interdiction de la réunion ne peut intervenir que s'il est très vraisemblable que de tels propos vont être prononcés. D'accord ? Donc la Cour dit bien, là il s'agit d'une interdiction préventive, donc c'est une atteinte plus large à la liberté d'expression qu'une sanction, qu'une répression postérieure, que le fait de condamner quelqu'un après qu'il se soit exprimé. Mais la Cour dit, une telle interdiction préventive, elle est permise, d'une part parce que il faut que le pronostic selon lequel de tels propos vont être tenus soit vraiment vraisemblable. Et puis, il faut que le caractère pénalement répréhensible des propos redoutés soit lui aussi hors de doute. Et donc la Cour dit, en l'espèce, c'était le cas. Donc que nous apprend cette première affaire, c'est qu'en Allemagne, en droit allemand, lorsqu'il apparaît certain que des propos pénalement répréhensibles vont être tenus, une réunion dans une enceinte fermée, par exemple un spectacle comme celui de Dieudonné, peut faire l'objet de mesures préventives qui peuvent aller jusqu'à une interdiction. D'accord ? S'il n'existe pas d'autres moyens d'empêcher que ces propos soient prononcés, eh bien, l'interdiction est permise, si l'on peut dire. Et comme Olivier Caillat l'a rappelé, on retrouve un peu la même idée dans les ordonnances du Conseil d'État sur Dieudonné. L'ordonnance du 9 janvier dit la chose suivante : il appartient à l'autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises. Et les deux ordonnances suivantes, puisque vous savez qu'il y en a eu, il y en a eu trois, les ordonnances du 10 et du 11 janvier, disent, du 10 et du 11, j'ai un doute sur la troisième date, mais bon, ce n'est pas vraiment très important, disent qu'il y avait un risque suffisamment établi que des propos pénalement répréhensibles soient tenus. Donc on retrouve bien cette idée dans les ordonnances. Simplement, le Conseil d'État semble exiger, en plus du caractère pénalement répréhensible des propos, il exige que ces propos portent atteinte à la dignité humaine ou provoquent à la haine et à la discrimination raciale. D'accord ? C'est ce que dit le Conseil d'État dans ses ordonnances. Et donc, il a considéré que le risque que ces propos soient tenus était suffisamment établi. Deuxième type de réunion, les réunions dans des espaces ouverts, sur la voie publique, des manifestations, etc. Là, il s'agit de l'article 15 de la même loi sur les réunions, qui permet à l'administration d'interdire la réunion ou de lui apporter des restrictions quand, au moment de la décision, les circonstances montrent que la réunion menace directement l'ordre public ou la sécurité publique. Alors, il faut que les circonstances montrent que la réunion menace directement l'ordre public ou la sécurité publique. Alors, telle que la jurisprudence a pu décrire ces deux notions, ordre public et sécurité publique. La sécurité publique, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement ce qui est atteint lorsqu'une infraction pénale est commise. D'accord ? Et donc, il me semble qu'on peut voir que désormais, il semble clair qu'en droit français, cette commission d'infraction semble pouvoir être inclus dans la notion d'ordre public. Mais comme en Allemagne, la loi évoque l'ordre public et la sécurité publique, l'ordre public mentionné dans cette loi est défini de manière un petit peu plus étroite, et la Cour constitutionnelle l'a défini de la manière suivante. Un ensemble de règles non écrites dont le respect, selon les conceptions sociales et éthiques dominantes, est nécessaire à la cohabitation pacifique au sein d'un territoire donné. Voilà. Alors, là, on retrouve, je crois, l'élément le plus critiqué de la première ordonnance, de l'ordonnance du 9 janvier 2014, l'ordonnance du Conseil d'État sur Dieudonné, élément qui a disparu des deux ordonnances suivantes, qui était cette idée qu'allait être tenue des propos pénalement répréhensibles et de nature à mettre en cause la cohésion nationale. D'accord ? C'est une des mots qui ont fait l'objet de vastes critiques, mais qui ont donc disparu dans les deux ordonnances suivantes. Alors en Allemagne, cet article 15, il a donné lieu à une vaste jurisprudence relative aux manifestations néo-nazies. Alors il serait trop long et un petit peu hors sujet de retracer toute cette jurisprudence. Disons simplement rapidement que la Cour constitutionnelle acceptait difficilement qu'on puisse interdire une manifestation néo-nazie pour éviter une atteinte à l'ordre public tel que je viens de le définir, donc à ses conceptions éthiques dominantes, etc. Mais en 2005, une loi est intervenue, une innovation législative a quelque peu changé la donne, puisqu'en 2005 a été adopté un nouvel article 130 alinéa 4 du Code pénal allemand qui permet de condamner celui qui approuve, honore ou justifie le règne nazi de l'arbitraire et de la violence, à condition que cette apologie soit réalisée d'une manière portant atteinte à la dignité des victimes. Et donc là, on retrouve l'idée mentionnée par le Conseil d'État et par Olivier Keila, l'idée de propos qui seraient de nature à porter atteinte à la dignité humaine. Des propos, ici, dans le cadre de l'article 130, alinéa 4, et dans ce que disent les ordonnances du Conseil d'État, des propos pénalement répréhensibles, de nature à porter atteinte à la dignité des victimes du nazisme, selon cette loi allemande. Et donc, en Allemagne, grâce à cet article 130, alinéa 4, eh bien, il devenait beaucoup plus facile d'interdire les manifestations néo-nazis, puisque désormais, on peut les interdire, enfin, l'administration peut les interdire, en cas de risque d'atteinte à la sécurité publique, puisque, comme je vous l'ai dit, la sécurité publique, c'est ce qui est atteint lorsqu'une infraction est commise. D'accord ? Donc, les autorités administratives allemandes n'ont plus besoin de cette notion d'ordre public, de cette notion morale, immatérielle d'ordre public. Et donc, en 2009, la Cour constitutionnelle allemande a confirmé cette possibilité, elle a confirmé qu'il était possible désormais d'interdire les manifestations néo-nazies, pro-nazies, grâce à cette nouvelle disposition pénale. D'accord ? Donc la Cour a jugé, c'est l'arrêt Wunsiedel de 2009, la Cour a jugé que ces restrictions étaient permises dès lors qu'il apparaissait clairement que l'infraction d'apologie du régime nazi allait être commise lors de la manifestation. Et puis par ailleurs, par parenthèse, dans ce même arrêt, la Cour constitutionnelle a jugé que cette nouvelle disposition pénale, donc qui interdit l'apologie du régime nazi, en fait la Cour a jugé pour la première fois que les limites de la liberté d'expression devaient être neutres, c'est-à-dire qu'il était interdit d'isoler un certain point de vue parmi d'autres, qu'il était interdit, par exemple, de réprimer les propos favorables aux communistes, mais non pas les propos hostiles aux communistes, que le législateur devait être neutre envers les opinions. Donc évidemment, une loi qui interdit de faire l'apologie du régime nazi n'est pas neutre envers les opinions. Mais la Cour constitutionnelle a jugé que cette exigence de neutralité qu'elle venait de poser pour la première fois, que cette exigence connaissait une exception, qui étaient les propos favorables précisément au nazisme. Pourquoi ? Parce que le contexte d'apparition de la Constitution allemande, 1949, montrait, selon la Cour, que la République fédérale d'Allemagne est clairement un contre-projet au nazisme et que donc l'apologie du nazisme soulève un problème qui n'est semblable à aucun autre en termes de liberté d'expression. Je mentionne cela parce que, évidemment, cela n'est pas sans lien avec la question de cet avis Hoffmann-Gleiman qui a déjà été mentionné. Donc, pour conclure, vous voyez que l'administration en Allemagne peut interdire une réunion lorsqu'il apparaît très vraisemblable qu'une infraction va être commise. Et il me semble, à la lecture des ordonnances du Conseil d'État, que, effectivement, et cela a été dit avant moi, que c'est là aussi le fondement essentiel de ces trois ordonnances de janvier 2014. Le Conseil d'État a estimé qu'il était certain que des infractions d'incitation à la haine raciale, de contestation des crimes nazis, etc., que des infractions allaient être commises. Alors bien sûr, on peut critiquer ces ordonnances, mais moi, personnellement, il me semble difficile de considérer que cette estimation du Conseil d'État était complètement déraisonnable, qu'il était complètement absurde de supposer, de considérer qu'il y avait vraiment une très forte probabilité que Dieudonné dise ce soir-là ce qu'il dit toujours depuis quelques années. Et je crois que précisément, c'est cette situation-là qui rend l'affaire de Dieudonné et qui rend les ordonnances du Conseil d'État si exceptionnelles, en quelque sorte, parce qu'il est assez rare que l'on puisse prévoir avec une quasi-certitude que des propos pénalement répréhensibles vont être tenus par un individu ce soir. D'accord ? Si notre conférence ce soir s'appelait « Négation de l'histoire, halte à l'exploitation par le lobby juif », etc., peut-être là, on aurait pu avoir ce type de pronostic, mais en règle générale, c'est assez délicat. Donc si, en tout cas en Allemagne, s'il est clair qu'une infraction va être commise, la réunion peut être interdite, et si la vraisemblance de commission d'infraction est moins certaine, dans ce cas-là, seules des restrictions sont permises. On dit à la personne, vous pouvez réaliser votre spectacle, mais attention, vous n'avez pas le droit de faire l'apologie du nazisme. Et finalement, même si cela n'est pas issu de normes adoptées par l'autorité administrative, cela correspond plus ou moins, je crois, à la situation actuelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dieudonné peut jouer, mais simplement, il sait qu'il lui est interdit de tenir un certain nombre de propos, de tenir explicitement des propos antisémites. Et j'en ai fini.